VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza de retour avec vous, il est 7h à Washington, bienvenue dans ce journal. En Côte d'Ivoire, bagarre devant le siège de la commission électorale indépendante, tir de grenade lacrymogène, cortège de protestation. La tension est montée dimanche à Abidjan où les résultats de l'élection municipale au plateau n'ont toujours pas été annoncés officiellement, mais font l'objet de contestations. Par ailleurs, deux personnes sont mortes dans un affrontement entre forces de l'ordre et partisans mécontents d'un candidat battu près de Séguéla, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Ces partisans ont dressé un barrage et ils ont refusé de le lever. Il y a eu un affrontement avec les forces de l'ordre. Deux personnes ont été tuées. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire a-t-il indiqué. La Croix-Rouge a appelé dimanche les autorités nigérianes à obtenir la libération de deux travailleuses humanitaires enlevées en mars par Boko Haram. L'ultimatum fixé par le groupe djihadiste qui menace de les exécuter étant sur le point d'expirer, il reste moins de 24 heures avant la date limite, a déclaré le CICR dans un communiqué appelant à agir d'urgence. Le comité international de la Croix-Rouge a lancé cet appel pour les deux humanitaires un mois après qu'une sage-femme enlevée avec elle le 1er mars dans le nord-est du pays a été tuée par ses ravisseurs. Gambie, plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, la Gambie lance aujourd'hui une commission Vérité, Réconciliation et Réparation pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime. Mais un éventuel jugement de l'ancien militaire qui a régné sans partage pendant 22 ans sur ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest paraît encore chimérique. Présidé par un ancien diplomate auprès des Nations Unies, Lamine Cissé, et comprend quatre femmes, dont la vice-présidente Adélaïde Sossé, et représente l'ensemble des communautés ethniques et religieuses du pays. Campus Faso, la plateforme d'inscription en ligne sur les campus burkinabés, connaît des difficultés d'absorption des futurs étudiants. Cette innovation majeure censée faciliter l'inscription et l'orientation des nouveaux bacheliers rencontrent des obstacles inattendus. À quelques heures de la clôture prévue demain des inscriptions, quelques 7000 étudiants étaient encore à la peine pour s'inscrire. Au Tchad, le gaz butane qui se substitue au bois de chauffe se fait de plus en plus rare dans les points de vente. Une situation qui fait suite à un malentendu entre le gouvernement et les Chinois en charge de l'exploitation de la raffinerie de N'Djamena au sujet de la gestion de cette raffinerie. En Guinée, malgré des textes et engagements pour la préservation des droits des enfants, le pays reste confronté à des problèmes de respect des droits de tout petit. Dans la capitale Conakry, plusieurs ONG se préoccupent de leur sort. Parmi elles, le centre Tiabala, qui donne une nouvelle vie aux enfants de la rue par la musique.
C'est la première fois que le gouvernement burundais accuse officiellement la Belgique d'être responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, risquant de détériorer encore davantage les relations entre les deux pays. L'assassinat est survenu quelques mois avant l'accession du Burundi à l'indépendance. Le véritable commanditaire qu'est le royaume de Belgique, puissance coloniale de l'époque, qui était farouchement opposé à l'indépendance immédiate du Burundi, n'a pas encore rendu de compte, dénonce le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur les assassinats de Rwagasore et des siens, ajoute-t-il, faisant référence à ses deux enfants morts en bas âge quelques mois après sa disparition. Le gouvernement accuse également la Belgique d'avoir une part de responsabilité dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance.
C'était Jean-Roger Dion qui nous parlait du Burundi qui accuse la Belgique d'avoir commandité l'assassinat en 1961 du héros de l'indépendance et membre de la famille royale, le prince Louis Rwagasore. Selon donc Bujumbura, comme vous venez de le suivre, Bruxelles a aussi sa main dans les différentes crises ayant secoué le Burundi. La grève des enseignants continue à Beni, c'est en RDC. Ils exigent le retour de la sécurité dans la région pour reprendre les cours. Cette grève a été déclenchée après le massacre d'au moins 18 civils dans un quartier de Beni, suivi d'une série de manifestations des élèves du lycée. L'hebdomadaire sud-africain Sunday Times a présenté hier à ses lecteurs des excuses inédites pour de fausses coupes. Le journal avoue avoir été manipulé dans des affaires qui avaient secoué le gouvernement de l'ex-président Jacob Zuma. Abdulrahman Dia.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous nous excusons de ce petit incident technique. Je vous disais donc que l'hebdomadaire sud-africain Sunday Times a présenté hier à ses lecteurs des excuses inédites pour de fausses coupes. Suivez les détails de Abdulrahman Dia.
Le rédacteur en chef du journal, Bongani Sikoko, admet que quelque chose s'est mal passé dans la collecte de l'information et le compte-rendu de plusieurs affaires. Dans un long mea culpa publié dans les colonnes du Sunday Times, il affirme que le journal a commis des erreurs et s'est laissé manipuler par des personnes qui avaient des motivations cachées. Dans sa colonne, M. Sikoko évoque d'abord une série d'articles publiés à partir de 2011 sur un prétendu escadron de la mort de la police accusé d'exécution sommaire dans la province du KwaZulu-Natal. Des dizaines de membres de cette unité avaient été arrêtés et suspendus, puis finalement blanchis. Cette affaire avait nourri une série de purges dans la police et la justice. Le rédacteur en chef concède aussi que le Sunday Times s'est lourdement trompé en rapportant la création par l'actuel ministre Pravin Gordhan d'une unité spéciale du fisc chargée d'espionner des hommes politiques, dont l'ancien président Zuma. À l'époque, titulaire du portefeuille des finances, M. Gordhan avait été remercié par le président Zuma en 2017 au pouvoir. Depuis 2009, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février par son parti, le Congrès national africain au pouvoir, en raison notamment des nombreuses allégations de corruption qui pèsent sur lui.
Abdulrahman Dia. En Algérie, 5 généraux ont été placés dimanche en détention provisoire pour des malversations présumées. Ils ont récemment limogé de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire. Nous retrouvons encore une fois Jean-Roger Pion pour les détails.
Ces généraux, dont l'ex-commandant de la gendarmerie nationale et l'ancien directeur des finances au ministère de la Défense, ont comparu hier devant un juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, à 50 km au sud d'Alger. À l'issue de leur comparution, la justice a décidé de les placer en détention provisoire. Ils ont été auditionnés pour la troisième fois en 15 jours pour le grief d'infraction aux consignes générales de l'armée portant sur des faits de dilapidation de fonds publics et de mauvaise gestion. Ces 5 généraux avaient été mis à la retraite dans le cadre d'une vague de limogeage ayant touché ces 3 derniers mois la haute hiérarchie militaire. Parmi les autres gradés limogés figuraient également les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des forces de défense aérienne du territoire, le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée et le contrôleur général de l'armée. Ces limogeages au sein de l'armée, longtemps considérée comme faiseuse de roi en Algérie, avaient suscité de nombreuses questions à 8 mois de la présidentielle de 2019, marquée par l'incertitude autour de la candidature du président Bouteflika, âgé de 81 ans, à un 5e mandat.
Jean-Roger Bion.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Arabie Saoudite promet de riposter à d'éventuelles sanctions, une réaction qui fait suite à la menace de châtiment sévère proférée par le président américain Donald Trump en cas d'implication avérée de Riyad dans la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. De nouveau, Abdulrahman Dia.
Dans un entretien à la chaîne de télévision CBS, le président américain Donald Trump a pour la première fois estimé possible l'implication de Riyad dans le sort de M. Khashoggi, disparu le 2 octobre, date de son entrée dans le consulat de son pays à Istanbul. Si Riyad est responsable, il y aura un châtiment sévère, a dit le président américain. Son conseiller économique Larry Kudlow a souligné que le président américain était très sérieux. Hier, la bourse de Riyad a subi une baisse de plus de 7%, sa plus grave dégringolade en 3 ans, avant de clôturer en baisse de 3,5%. Riyad a dit rejeter entièrement toute menace ou tentative de l'affaiblir, que ce soit via des menaces d'imposer des sanctions économiques ou l'usage de pression politique. Si des sanctions sont appliquées, le royaume répondra avec de plus grandes sanctions, a prévenu un haut responsable saoudien. L'économie du royaume a un rôle vital et d'influence pour l'économie mondiale, a-t-il déclaré.
Abdulrahman Dia, et c'est la fin de ce journal. Merci.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.